Je vais poursuivre l'étude du sujet. Avez-vous l'expérience intime de l'amour fraternel en Christ? De ce dimanche 3 mai, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mai. Je vous invite à prendre le texte de Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque nous voyons ce chapitre commencer par un tel thème, le sacrifice de notre vie, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est un culte raisonnable, c'est-à-dire qui investit toute notre raison, nos pensées, autant que notre cœur et nos sentiments. Et il s'agit dans ce chapitre 12 de multiples recommandations sur l'amour. La première recommandation, c'est une négative, ne vous conformez pas au siècle présent, à ce monde, mais soyez renouvelés dans l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, le premier point qui est donné pour vivre cet amour, vivre cette offrande à Dieu, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Il s'agit du verset 3. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il est évidemment fait question du corps de Christ, dans lequel il y a différents ministères pour le service de Dieu, et le service de cette offrande agréable à Dieu. Bon, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Donc que la pratique de l'amour soit sans hypocrisie, sans masque, sans duplicité. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc, avoir horreur du mal, ça rejoint le thème du livre des Proverbes, où l'intelligence est la haine du péché, la haine du mal. Il y a donc une rupture radicale dans notre cœur, dans nos pensées, dans tout ce qui est le fond de nous-mêmes, le fort interne, avec le mal. Alors la charité est sans hypocrisie, sans masque. Par amour fraternel, verset 10, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque. Donc nous voyons ici que l'Église, l'Assemblée locale, doit être remplie d'affection mutuelle. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Cet amour pour les autres, qui use de prévenance réciproque, c'est un amour actif, et en même temps, en parallèle, c'est le service de Christ. C'est bien sûr une vie qui n'est pas toujours agréable en communauté. Il est mis au verset 12, « Réjouissez-vous en espérance ». Il n'est pas toujours possible de se réjouir tous les jours dans une église. Il y a parfois des choses lourdes à supporter, à vivre, et il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup d'espérance dans des jours meilleurs. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc nous voyons vraiment qu'il y a un attelage, imaginons une charrue et puis des bœufs devant, c'est un attelage. L'Église s'attelle à un amour actif. Et dans cet amour, nous rejoignons bien sûr Matthieu, qui du chapitre 5 au chapitre 7 parle de bénir ceux qui nous font du mal. Regardez au verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Donc Matthieu 5, verset 44, il est interdit dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance en Christ, de maudire. Il est vivement recommandé de bénir. Pourquoi ? Parce que nous confions dans l'œuvre toute-puissante de Jésus-Christ ressuscité, qui est capable de changer les cœurs des ennemis, changer les cœurs des chrétiens refroidis aussi, et de briser les dissensions, d'arrêter les persécutions. Verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Donc, c'est la compassion. C'est la compassion du verset 1. C'est la compassion. qui est une grande qualité chez les chrétiens. On la trouve même chez les athées, chez les incroyants. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, donc des sentiments égaux, respectueux l'un de l'autre, sans différence, sans parti pris, sans a priori, sans privilégier l'un et en rejetant l'autre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Cela rejoint le point 3, où il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est évidemment extrêmement important. Et nous voyons bien que, au verset 10, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu, bien sûr. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et bien sûr, nous trouvons ces versets-là d'une manière très active, les charbons ardents sur la tête, psaume 140, verset 11, et psaume 11, verset 6. La victoire sur le mal se fait par le bien mis en pratique. D'où vient ce bien dans notre cœur? D'où vient ce bien qui est fondamentalement au fond du cœur du chrétien? Eh bien, le bien qui est dans notre cœur, c'est la présence du Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui est bon et qui est bien. C'est évidemment dans la vie, dans le Seigneur, avec le Seigneur, que nous pouvons puiser à cette source de bien pour vaincre le mal. Donc, il faut donc retrouver son premier amour. Il ne faut pas abandonner notre communion avec Christ. Il ne faut pas faire comme l'Épître, comme l'Église d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour et qui se retrouvait dépourvu de force. N'est-ce pas ? Dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, cette Église était tombée parce qu'elle avait perdu cet amour, cette communion avec Christ. Quand nous regardons l'Église de la Odyssée, chapitre 3, versets 14 à 22, nous voyons que Christ est déjà hors de l'Église. Il est derrière la porte, il veut y rentrer. Alors là, il ne s'agit plus de communion non plus. Et dans le chapitre 3, de versets 1 à 6, l'Église de Sardes, la plupart de tous les membres sont morts, c'est-à-dire ne vivent pas en Christ, sauf quelques-uns. Et Jésus recommande à l'ancien, qui vient visiter Jean à Patmos, il recommande de affermir ce qui est sur le point de mourir. Donc, il y a des chrétiens qui ont besoin d'être affermis, d'être enseignés dans l'amour de Christ, et pour mener une vie en Christ. C'est la seule manière de pouvoir surmonter le mal par le bien. Parce qu'en nous, il n'y a pas de bien. Il n'est qu'en Dieu. C'est cela qui est extrêmement important. Il n'est que dans le Saint-Esprit aussi. Prenons d'autres chapitres. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, aux bonnes actions, aux bons engagements. Donc il y a une vigilance mutuelle, une vigilance forte, active, pour propulser chacun de nous ensemble dans l'amour de Christ évidemment, pour aller puiser à l'eau vive, à la source d'eau vive, et pour pouvoir déborder de cette eau vive et pratiquer les bonnes œuvres. Donc veillons, c'est une attitude de vigilance et une attitude de responsabilité. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Une assemblée, c'est un ensemble de personnes qui ont accepté Jésus, qui ont confessé leurs péchés, qui ont reçu Christ en eux, et qui sont appelés à vivre ensemble, comme frères et sœurs, à pratiquer la volonté de Dieu et à s'exciter mutuellement, à s'encourager, si vous voulez, à pratiquer cet amour divin, à le mettre en pratique. Et On peut être dans une assemblée, assis dans l'assemblée, et l'avoir abandonné. Parce qu'on ne veille à rien du tout. On est là passivement, on a déjà abandonné l'assemblée. Dans son cœur, dans son âme, on n'a pris aucune responsabilité vis-à-vis des autres. Donc en général, quand on voit ce verset, on pense que c'est quelqu'un qui a quitté l'Église pour un certain temps ou pour toujours. Mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup de passivité et d'indifférence dans une Église qui font partie de l'abandon de l'œuvre de Christ, de l'abandon de l'État chrétien et de l'abandon de la vraie responsabilité d'aimer. C'est la même chose dans un couple, dans une famille, vis-à-vis des enfants. On peut être ensemble sous le toit et en fait avoir abandonné toute démarche d'amour et d'affection envers son conjoint, avoir abandonné toute vigilance et toute prévention amoureuse envers les enfants. Et donc c'est plutôt n'abandonnons pas notre engagement au sein de l'Assemblée en tant que membre vivant de ce corps. Quelle assemblée. Voilà. Et je voudrais continuer dans un autre passage. Premier épître de Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, versets 3 et 4. Chapitre 3, versets 3 et 4. Dans ce texte, il s'agit toujours, et on aime bien parfois de mettre cela sur le plat pour les femmes, mais je vais vous montrer que cela concerne autant les hommes. Chapitre 3, verset 3. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Effectivement, il y a des femmes qui aiment bien de s'habiller, d'avoir des bijoux, etc., d'avoir une belle robe pour aller au culte, aux réunions d'église, etc. Mais combien de maris ne sont-ils pas derrière cela pour les inciter à le faire ou être complices? De manière passive, mais avec complaisance, ils aiment voir leur femme briller dans l'église. Et il s'agit d'une parure extérieure. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans l'âme? Qu'est-ce qu'il y a comme adhésion personnelle à Christ quand on se présente ainsi dans une église? Et voyons-le au verset 4. Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur. Donc, celle de l'Esprit Saint, évidemment. La pureté incorruptible, donc éternelle, qui vient du Saint-Esprit, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et nous rejoignons bien sûr ce qui est dit dans Jacques, au chapitre 3, verset 17, sur cette sagesse qui vient d'en haut, qui est bienveillante, qui est douce et paisible, etc. Jacques, chapitre 3, verset 17. Il s'agit donc d'un état intérieur de vie tel que Jésus l'avait de son vivant sur terre et l'a encore aujourd'hui. Donc il s'agit d'un état de vie qui est ressourcé en Christ. Et c'est une parure donnée par Christ. Verset 5, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. » Donc ici, on demande au mari d'avoir de la sagesse. Et il s'agit de la même sagesse que dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Cette sagesse du cœur, qui est douce, bienveillante, qui vient d'en haut, et qui ne provoque aucun trouble dans la vie personnelle, ni dans la vie du couple, ni dans la vie de l'Église. Et honorez les femmes comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, 50-50 devant Dieu, en couple, en Église, les femmes, les hommes, les esclaves, les hommes libres, les grecs, les païens ont tous reçu le même prix à la croix, le prix de la grâce offert gratuitement par Jésus-Christ. Et il n'y a pas de différence à faire entre les sexes, les races, les origines, les classes sociales au sein d'une église. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous pouvons nous adresser à Dieu directement en tant que chrétiens. C'est notre privilège. Nous n'avons pas besoin de prêtres ni de gourous. Et un pasteur qui voudrait être un intermédiaire de la prière entre les chrétiens et Dieu veut jouer un rôle de médium, de prêtre, d'intermédiaire. C'est complètement antibiblique. Nous sommes directement branchés sur Dieu grâce à Jésus-Christ qui nous a ouvert la porte du ciel et par son sang et sa résurrection. Mais ce chemin qui est tout à fait libre, qui est en principe sans obstacle, peut être encombré par notre façon d'être, où nous n'avons plus de respect pour la femme. Nous la considérons moins que nous. Nous avons de la rancœur sur elle. Nous voulons dominer. Nous avons de l'amertume à son égard. Et puis peut-être que même au sein du culte de l'Église, on regarde la plus jolie et qu'on ne regarde plus son épouse. Si ce n'est pas la plus jolie, ou on s'enorgueillit de son épouse si elle est la plus jolie. Tout cela fait partie d'une parure extérieure et d'un orgueil qui fait obstacle aux prières. Et l'homme ne peut pas rentrer là-dedans. Il doit être doux et homme de cœur, comme son maître, Seigneur Jésus. Donc au verset 8, enfin, donc en conclusion, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Voilà, la ligne de conduite des chrétiens dans une assemblée. Et prenons la première épître de Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, pas les décalogues de Moïse, le commandement de Jésus, que nous trouvons dans Jean 13. Celui qui garde mes commandements demeure dans mon amour. Et puis ensuite, Jésus s'explique, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Eh bien, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, donc un amour, un agapé en nous, d'une bonne conscience, donc purifiée, où le péché n'a pas d'autorité, et d'une foi sincère, qui dépasse les usages et coutumes, les traditions, et qui est réellement branchée sur la vérité divine. Nous avons cette allusion à la conscience purifiée, en hébreu, au chapitre 4. Chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, parésie, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nos besoins et nos faiblesses, évidemment. Parce que nous avons beaucoup de faiblesses. Nul doute que nous en aurons toujours et qu'il faudra toujours Christ pour nous être branchés sur la vérité divine et non pas branchés sur notre chair, pauvre chair. Dans Hébreux chapitre 10, verset 20. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair, puisque nous avons un souverain prêtre, donc un médiateur entre le Père et nous, établi sur la maison de Dieu, c'est nous, la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous revoilà dans les mêmes principes que nous avons lus avant dans Pierre. Alors, le cœur sincère, la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Les termes en grec, meta aletines cardias, ça veut dire au-delà des vérités traditionnelles de notre cœur, des préjugés, de tout ce que nous avons reçu d'Adam et Ève, ou des parents, ou de la famille, de la caste dans laquelle nous étions, etc., peu importe. Tout cela doit être dépassé, on doit aller au-delà, et on doit être dirigé par un nouvel esprit, un cœur purifié et une conscience pure qui se laisse conduire par le Saint-Esprit pour adorer Dieu. Donc le principe du puits dans lequel on trouve l'eau vive, comme Jésus l'a proposé à la Samaritaine, de cette eau vive qu'on pourra boire et qu'on n'aura plus jamais soif, cette eau vive qui est toujours là, qui peut toujours être à notre portée, c'est le principe de la vie divine accessible à nous, mais qui ne nous appartient pas, qui nous est offerte gratuitement par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous de donner la vie divine, et la chair ne sert de rien. Jean chapitre 6, verset 35, verset 63, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Nous pouvons, bien sûr, aller voir Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc Dieu, le Saint-Esprit est une personne divine, c'est la troisième personne de la Trinité. Elle n'est pas moins que le Père et le Fils. Elle n'est pas troisième parce qu'elle serait moindre. Elle est celle qui conduit nos vies pour aimer Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Elle est celle, la personne divine qui porte nos cœurs et nos âmes vers Dieu dans un élan pur, renouvelé, divin, vers Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est des versets lourds de conséquences, parce que cela veut dire que dans l'assemblée d'Éphèse, il y avait de l'amertume, de l'animosité, de la colère, des clameurs, de la calomnie, de toute espèce de méchanceté. Tout ça doit disparaître de nous. Et il fallait être bons les uns vers les autres, compatissants, ou pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez donc que c'est une œuvre incommensurable, le changement de l'être humain lorsqu'on rentre dans la foi chrétienne. C'est une œuvre incommensurable, c'est une œuvre qui dépasse nos moyens et c'est une œuvre divine en nous. Mais ce qu'il y a, nous avons la responsabilité de l'accepter, de la saisir, de veiller à la conserver et d'être attentif à ce que Dieu veut faire. Regardons dans Éphésiens chapitre 5, au verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, nous avons une responsabilité. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Donc, la communion à Christ produit bonté, justice et vérité. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on trouve dans Romains 14, 17, lorsque Paul dit que le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice et amour selon le Saint-Esprit. Continuons dans Éphésiens 5, au verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, pas ce qui est agréable à nous, qui nous arrange, mais agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, donc de Satan, du monde, du péché, infructueuses, donc qui ne portent pas de fruits, qui sont stériles, mais plutôt condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, il y avait quand même des problèmes dans l'Église. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, Jésus condamne les œuvres de ténèbres et Jésus dévoile tout. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Donc, nous avons ici une parole extrêmement forte qui nous montre qu'un chrétien peut dormir, c'est-à-dire vivre comme un mort, avoir la même position, allongé et passif, et ne plus être actif pour Christ, ne plus être engagé en Christ, ne plus avoir de vie, en apparence en tout cas, et il se comporte comme les incroyants, peut-être pire même. Alors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, c'est rentre dans cette attitude de vie, comme quand un homme se lève au matin. Il se lève, il se lave, il mange, il va travailler, et il fait toute sa journée. Ben, toi aussi, dans ta vie chrétienne, lève-toi, nourris-toi de la parole de Dieu, et agis, engage-toi pour Christ. Et Christ éclairera. Donc Christ peut faire œuvre de lumière, œuvre de plénitude en nous, à partir du moment où on accepte. Dans la vie chrétienne, nous avons la responsabilité de la co-responsabilité. Nous avons la responsabilité non pas du salut, mais de l'accepter, de l'appréhender, de le vivre. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, donc ne vivez pas comme des irréfléchis, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et puis alors, nous voyons, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Là, nous voyons que l'amour fraternel est fort, en verset 21. Nous vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a donc un profil bas pour les chrétiens, un profil bas. Et non pas... ce n'est pas un tas de fumier avec des coqs qui se bataillent. L'Église ne doit pas sentir le tas de fumier et ne doit pas entendre le cri des coqs. Nous avons un programme considérable devant nous. Considérable. Et il n'y a pas de doute que c'est difficile. C'est pour cela qu'il faut intercéder les uns pour les autres. Il faut prier les uns pour les autres. Il faut prier pour les frères, pour les sœurs. Et chacun de nous peut se mettre en prière tous les jours et dire « Mais Seigneur, je te recommande André, je te recommande Marjolaine, Henri, je te demande que ton vrai amour l'habite, que ton pur amour le conduise, que tu sois son berger, que tu sois sa source d'eau vive, que tu sois son grand frère, manifeste-toi comme son ami, sois son Dieu véritable. » Montre-lui ton amour. À force de le répéter au Seigneur, c'est une véritable source de bénédiction pour ce frère, pour ses sœurs. Et nous avons mutuellement le devoir de la bénédiction, de l'intercession, de la bénédiction les uns pour les autres. Ce n'est pas une ritournelle abrutissante. L'adoration à intercession peut prendre des heures, tout en conduisant l'auto, en travaillant dans le jardin, en étant dans un boulot qui nous permet de penser à deux choses en même temps, ça arrive souvent. Mais en coupant la TV, en arrêtant le bruit dans la maison et en prenant le temps de s'adresser au Seigneur. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est que chacun de nous connaisse la visite du Seigneur et l'action du Saint-Esprit, connaisse le bouleversement par la grâce, connaisse le pardon par le sang de Jésus, connaissent la justice de Christ, connaissent sa volonté, sa direction, que chacun de nous connaisse sa bienveillance, sa vérité, bien sûr par les Saintes Écritures, mais aussi par la prière. Toutes les Écritures sont faites pour nous corriger, nous enseigner, nous instruire, dans 2 Timothée. Donc, nous pouvons être les défenseurs les uns des autres dans l'Église. Nous pouvons être un rempart par nos prières, contre le péché, contre les attaques de Satan, les uns pour les autres dans l'Église. Nous pouvons être fidèles aux autres, même dans le silence de notre prière, de notre nuit, de notre travail. Donc l'amour du prochain est extrêmement important. L'amour fraternel est à la base. Ce n'est pas seulement se plaire à un repas fraternel, tous les 6 semaines, tous les mois dans une église. Ce n'est pas un moment où on fait une petite retraite, on est tous bien ensemble et puis on s'oublie. C'est un état permanent d'amour entre frères et sœurs. La priorité, c'est de présenter les frères et les sœurs au trône de Dieu, au lieu de là où la majesté de Dieu a la toute-puissance de conduire chacun de nous. Ce bel appel à prier et à aimer chacun de nos frères et de nos sœurs, nous le trouvons en Jésus, qui passait des nuits entières à prier pour ses disciples. Par la prière, Jésus est tout à fait disposé à ciseler l'âme de nos frères et de nos sœurs et en faire un beau diamant, un beau joyau, unique, agréable à Dieu. Jésus est capable de faire à tout chrétien un cœur aimant, un cœur qui adore, un cœur qui est renouvelé. Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous avons cet amour fraternel, fort et puissant, par la foi? Voilà, chers amis, c'est extrêmement important d'avoir compris la nature même de l'amour que Dieu nous demande pour les frères et les sœurs. Nul doute que nous serons récompensés un jour lorsque nous serons devant notre Maître. Nul doute. Nul doute que nous aurons une couronne si nous l'avons fait sincèrement et humblement tous les jours de notre vie pour les frères et les sœurs. Que Dieu vous bénisse.